Une spéciale, je vous le disais, consacrée ben, aux événements qui depuis hier secouent le monde entier avec cette attaque conjointe des États-Unis et d'Israël contre l'Iran des ayatollahs. L'ayatollah Khamenei a été tué, ça a été confirmé et donc on va prendre connaissance de tout ce qu'il y a à savoir de l'info maintenant avec Liz Benkemoun. Voici donc votre journal.
Bonjour à tous. L'armée israélienne et les États-Unis seraient proches de la suprématie aérienne sur l'Iran après avoir largué 1200 bombes. Ali Khamenei et 40 commandants clés des forces armées iraniennes ont été éliminés, parmi eux 7 hauts responsables sécuritaires, dont le chef d'état-major iranien Abdelrahim Moussavi.
Benjamin Netanyahou s'adresse aux Iraniens en persan et appelle à renverser le régime. Et enfin, 2 missiles iraniens ont été tirés en direction de Chypre, où se trouvent des bases militaires britanniques. C'est ce qu'a révélé le ministre britannique de la Défense, John Healey. L'armée israélienne et les États-Unis sont proches de la suprématie aérienne sur l'Iran, après avoir largué, Lise, vous le disiez dans les titres, 1200 bombes.
Une fois cette suprématie aérienne établie, cela renforcera la capacité d'Israël et des États-Unis à cibler un plus large éventail d'objectifs et à aider les manifestants anti-régime. L'armée israélienne est sur le point d'atteindre cette suprématie aérienne. Ce changement pourrait marquer une capacité accrue pour Israël et les États-Unis d'aider à faire renverser le régime en ciblant des forces spécifiques qui ont été utilisées pour les opprimer. En 2025, en juin dernier, il a fallu plusieurs jours à l'armée de l'air pour atteindre cet état. Les défenses antiaériennes iraniennes ont été malmenées, si bien que les avions et les drones israéliens peuvent survoler plusieurs zones ci pendant de longues périodes sans trop se soucier des défenses iraniennes. Une fois cet objectif atteint et compte tenu de cette tendance, l'armée de l'air a lancé une nouvelle vague d'attaques majeures visant spécifiquement des sites du régime à Téhéran. Le centre des Basides, utilisé pour attaquer les manifestants lors des protestations contre le régime dans le centre de Téhéran, vient d'être pris pour cible et détruit.
Et au cours des dernières 24 heures, l'Iran a tiré plusieurs centaines de missiles en direction de différents pays, dont des dizaines visaient le territoire israélien, bien sûr.
Moins de 10 impacts ont été recensés en Israël. Pourtant, le bilan de la nuit est lourd pour Tel Aviv, où les sirènes ont retenti presque en continu. 40 bâtiments ont été endommagés par les frappes iraniennes, dont l'un déclaré depuis inhabitable. 29 ont subi des dégâts matériels. 200 habitants ont dû être évacués en urgence. 10 personnes sont encore à l'hôpital et une femme a été tuée cette nuit. Elle n'a pas été victime d'un fragment, mais d'un impact direct de missile. Une autre résidente de Tel Aviv, âgée de 68 ans, est décédée d'une insuffisance respiratoire alors qu'elle se rendait dans un abri anti-missile.
Et l'Iran tente d'entraîner le débordement des forces anti-aériennes israéliennes.
L'Iran a parallèlement élargi son champ de tir visant des cibles en Arabie Saoudite, au Koweït, au Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis, ainsi qu'au Qatar, avec des victimes recensées dans plusieurs pays du Golfe. Ce déluge de feu n'est pas le fruit du hasard, il obéit à une doctrine militaire précise qui vise à saturer les systèmes de défense aérienne. L'Iran a tiré les leçons des frappes israéliennes de juin dernier sur ses infrastructures. Ce dispositif vise à compliquer le travail de renseignement et de ciblage des forces aériennes israélo-américaines.
Ali Khamenei et 40 commandants clés des forces armées iraniennes ont été éliminés depuis le début de cette attaque conjointe des États-Unis et d'Israël. Parmi eux figuraient 7 hauts responsables sécuritaires, dont le chef d'état-major iranien Abdelrahim Moussavi.
Oui, 40 commandants clés et l'ayatollah en personne. Ils ont tous été éliminés dès la frappe préventive initiale qualifiée d'historique par l'armée israélienne. Une attaque rendue possible grâce à des informations précises. Abdelrahim Moussavi, considéré comme l'un des plus hauts gradés de l'armée iranienne, avait lui-même été nommé à son poste après l'assassinat de son prédécesseur en juin 2025. Au-delà des pertes infligées au commandement iranien, Tsahal a précisé que des dizaines de systèmes de défense aérienne avaient été détruits en Iran. L'élimination de la plupart des hauts commandants constitue un coup historique porté à l'appareil sécuritaire iranien. L'ayatollah Arafi vient d'être nommé guide suprême par intérim de l'Iran. Et on en parle avec notre première invitée de cette matinale, Melissa Amirhezi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et merci d'avoir patienté, Melissa, pendant que j'étais dans les abris et qu'on ne pouvait pas commencer cette matinale. Alors, dites-nous, vous qui êtes d'origine iranienne, après cette élimination de l'ayatollah Ali Khamenei et après la situation actuelle, dans quel état d'esprit vous êtes ce matin aujourd'hui?
Ce matin, je dirais d'abord félicitations. Je pense qu'on devrait féliciter le monde de se débarrasser enfin d'une dictature islamiste terroriste. Et donc, je pense que ça doit être même une fête nationale ou mondiale. Je pense que ça se voit sur mon visage ce matin un peu le sourire. Et alors le soleil qui sort, je pense qu'il me première journée sans Ali Khamenei, c'est une très très belle journée pour nous tous les Iraniens. Et je tiens d'abord à commencer par ça, parce que je pense que ce que Netanyahou a fait pour le peuple iranien, Cyrus le Grand avait fait pour le peuple juif. Et donc, je tiens aussi à remercier la population juive de nous soutenir et je sais que c'est pas du tout facile pour vous non plus comme j'ai bien vu vous étiez à l'appui et je suis très contente que vous êtes toutes en sécurité. Ali Khamenei est mort et ça c'est grâce à l'intervention des États-Unis et l'Israël ensemble et non seulement Ali Khamenei qui est mort, on a aussi comme vous l'avez dit dans le news 40 personnages clés de ce régime dictature effectivement Egei, vous avez oublié de dire son nom, Egei, c'était le plus grand chef de pouvoir judiciaire qui avait ordonné à tuer les 40 000 morts au mois de janvier. Et Ali Shamrani, qui était le bras droit d'Ali Khamenei, qui est mort. Ce qui se passe depuis hier, c'est le joie, c'est le choc. On n'attendait pas du tout à la mort d'Ali Khamenei si facilement, en fait. J'aurais aimé un peu différemment. Mais je pense que c'est le choc. C'est le choc aussi pour la plupart de nous, surtout pour nous en dehors de l'Iran. On ne peut pas être avec eux pour faire la fête et montrer le joie. Hier, les Iraniens, ils sont sortis dans les rues, ils sont sortis dans leurs balcons, par leurs fenêtres, ils ont chanté, ils ont dansé toute la nuit. Et malheureusement, les forces d'ordre, ils ont sorti à nouveau les armes et ils ont tiré sur les gens. J'ai eu des amis et de la famille qui m'ont appelé en disant que voilà, certains quartiers sont bloqués par les gardiens de la révolution à nouveau. Et à la violence qui est là. D'ailleurs, Prince Fazal Pahlavi avait bien annoncé de ne pas sortir de chez vous en attendant. Il faut attendre, mais bon, je pense que le joie de cadavre de Mouche Ali, le sourire Ali, était beaucoup plus fort d'écouter. Je pense qu'on est sur la bonne route. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire depuis 47 ans. Maintenant, on en parle encore, j'entends parfois ce droit international, mais je me demande pourquoi on n'a jamais parlé de droit international protégé des innocents. Pourquoi on parle toujours quand il s'agit de terroristes et des islamistes, on évoque toujours ce droit international qui sort. Enfin, bref. Je pense qu'on est sur la bonne route. Il faut pas arrêter. J'ai entendu le discours de Netanyahou ce matin, qui a fait appel à la chute de régime. Je pense que c'est le but de tout le monde, que ce soit les Iraniens en dehors de pays, que ce soit les Iraniens en dehors de pays. Vous savez, demain, si on m'annonce qu'il faut aller pour aider à faire chuter le régime à l'intérieur du pays, je serai la première à prendre mon billet d'avion et je ne suis pas la seule à faire ça. Le chute du régime est très proche. On a perdu leur chef de tyrannie. Mais maintenant, la situation devient un tout petit peu plus compliquée, parce que la situation est compliquée dans le sens où les Iraniens savent ce qu'ils veulent. Je pense que les Israéliens et les États-Unis, ils sont là pour les aider, comme ils ont dit, l'aide est en route et on est là. Mais par contre, moi, j'entends pas nos amis européens. Ils sont où? C'est aujourd'hui, maintenant, c'est le temps de se mettre à table avec le leader des Iraniens. Il faut négocier avec lui. Il faut trouver une solution durable. Et la seule solution, c'est pouvoir négocier avec Prince Reza Pahlavi, qui a plus que 60% de popularité en Iran et en dehors de l'Iran. Et je peux dire qu'en dehors de l'Iran, je pense qu'il est presque 80, voire 90% de popularité. À l'intérieur du pays, il est encore à 60 à 70%. Et donc, je pense que il est temps de trouver la solution. Elle est là, en fait. On doit même pas chercher la solution. La solution est là. Je pense qu'il est temps de fermer les ambassades, arrêter toute collaboration. Je pense qu'il y a un moment donné, l'Occident, donc je dirais plus les Européens, ils ont aussi un rôle très important à jouer, parce que quand ils ont amené les mollahs, quand ils ont fait la révolution, ils ont amené les mollahs en Iran à l'époque. La France a joué un rôle très très important à l'époque-là. Maintenant, on entend Macron qui prend la distance et qu'il ne sait pas quoi faire. J'ai envie de passer un message à le président Macron en lui disant: vous avez amené ces mollahs, venez les chercher. C'est bon, ça suffit maintenant. Donc c'est assez, on a eu assez de pendant 47 ans de les avoir. Donc je pense qu'aujourd'hui, le rôle très très important de l'Europe, c'est fermer les ambassades, arrêter toute collaboration et accepter que les Iraniens, ils ont fait leur choix de chuter le régime et vouloir un leader de transition qui est le prince Reza Pahlavi à table de négociation et conversation. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des minutes.
Mais non, bien sûr, Mélissa, vous avez été très complète. Moi, je voulais remettre deux petites choses. La première, quand vous avez parlé de Cyrus et des Perses, et c'est vrai que c'est vraiment ironique parce que c'est ce week-end exactement, parce que c'est la fête de Pourim qui doit commencer demain. Et donc, c'est vrai que quand on dit aux gens que les Perses et les Israéliens, en tout cas les Hébreux, on a une histoire qui remonte à des milliers d'années, les gens ne comprennent absolument pas ce qu'on raconte. Et donc, ils disent, mais quel rapport, vous vous détestez, vous êtes ennemis, pourquoi vous êtes amis, pourquoi vous dites que vous avez le même ennemi, etc. Et ils comprennent pas. Et quand on voit effectivement le Premier ministre israélien s'adresser directement au peuple iranien, c'est pas la première fois qu'il le fait, Benjamin Netanyahou, qu'on l'aime ou pas. Ça fait des mois déjà qu'il tweet en persan, qu'il envoie des messages en persan pour dire aux gens, l'aide va venir, on va venir, on va vous libérer de la tyrannie. Et c'est vrai que en juin dernier, soyons honnêtes, Mélissa, aussi bien les Iraniens que les Israéliens, on avait été déçus que cette opération de juin dernier n'ait pas terminé comme aujourd'hui, soit par faire tomber le régime, soit par l'élimination d'Ali Khamenei. Et on ne comprenait pas pourquoi les États-Unis et Israël s'étaient arrêtés en si bon chemin.
Oui, tout à fait, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, je pense qu'il faut maintenant, ce qui on est arrivé à un point où je pense, j'espère en tout cas qu'on va pas retourner en juin l'année passée. Et donc ces opérations, il faut que ça dure un tout petit peu plus, donc, parce qu'en fait le régime, sinon il va commencer à la résistance, et donc en fait il va faire les contre-attaques, et ça va continuer dans une guerre dans la région. Et d'ailleurs, ce que j'avais toujours dit, et que je le répète, Trump et Netanyahou, ils attendaient le moment pour être sûr que ce régime tombe, parce que si le régime cette fois-ci ne sera pas tombé. Le problème, c'est que ça va créer tout un problème dans la région, je dirais. Et beaucoup de gens, ils essayent de montrer que voilà, l'Iran, ça va être l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, etc. Encore une fois, j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir du tout. Donc vous êtes ici, on parle d'une monde civilisé. Vous parlez des personnes hautes éduquées et donc en fait des gens absolument laïcs. Et donc en fait, la situation de l'Iran n'est pas l'Irak ni la Syrie. Les Iraniens dans la région comme les Israéliens dans la région, je dirais, on est complètement différents de la population dans la région. Et donc, il faut bien distinguer ces choses-là. Maintenant, jusqu'où la guerre va continuer, je ne sais pas. Mais je dirais que la guerre ne devrait pas s'arrêter immédiatement. Parce que, voilà, on est sur la bonne route. Mais si on s'arrête immédiatement, la population iranienne, tout seul, n'y arrivera pas jusqu'au bout. Donc ça, on le sait très bien, dans une révolution, les gens sans armes, c'est hyper difficile. Donc, d'ailleurs, le coup d'État de 1979 qui a été fait par les islamistes et par les communistes, avec la coalition avec Khomeini à l'époque, les gens, ils étaient armés, vous savez. Les gens, ils ont été armés avec l'aide de la Palestine. Donc les Palestiniens et les Mujahidines, ils ont été armés par le djihad Palestine et les groupes terroristes palestiniens. Et donc voilà. On peut pas continuer la guerre éternellement, ça c'est sûr, mais il faut bien continuer avec les points comme ils ont bien donc Israël moi je trouve qu'ils sont extraordinaires dans le ciblage. Je sais pas comment ils font, mais vraiment au niveau de cibler les endroits et cibler les personnes pour attaquer, c'est parfait. Donc en fait, il faut continuer vraiment dans toutes les qui est bases militaires, nucléaires et les institutions qui est tout ce qui est les gardiens de la révolution, etc. pour y arriver. Alors la dernière chose que j'aimerais bien ajouter, c'est que je pense que petit à petit, les hauts dirigeants, et donc ils sont déjà quand même pas mal de militaires qui sont retournés vers la population iranienne. Et qui collabore encore intérieur du pays avec Prince Reza Pahlavi et avec Mossad. Et donc je pense qu'on devrait continuer. Si on continue encore un peu plus, on aura les militaires aux côtés de population iranienne. Et là, ce sera la révolution. Non, je vais dire ça quelque chose d'autre. Ce sera la renaissance de la laïcité et la fin de l'islamo-politique dans le monde entier.
Alors, c'est vrai que c'est le point clé, Mélissa, et on surveillera ça, et vous aussi, j'en suis sûre. On attend que les forces armées se retournent enfin contre le régime et se mettent aux côtés du peuple iranien. Ça, on les avait déjà appelés depuis un certain temps à le faire. Ça n'avait pas semblé être la tendance, mais maintenant que le régime est en train de s'effondrer, peut-être qu'il va y avoir des changements d'opinion. On va bien voir, on suivra ça. Merci beaucoup, Mélissa Mirkizi, d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale. Je rappelle que vous êtes en Belgique, conseillère communale et maire à Gensoren. Bonne journée à vous et d'origine iranienne, évidemment. C'était pour ça qu'on vous interviewait. On sait que sur les réseaux sociaux, vous êtes très active sur ce sujet. Donc, les gens qui ne vous suivent pas, vous pouvez y aller, vous aurez son opinion. Voilà. Mélissa, bonne journée, à très vite.
Bonne journée, au revoir.
Et vous le disiez, Lise, dans l'entretien que vous venez d'avoir avec Mélissa Mirkizi, Benjamin Netanyahou s'est adressé aux Iraniens en persan. Il appelle à renverser le régime.
Oui, Benjamin Netanyahou a directement appelé les citoyens iraniens à se soulever contre la République islamique. Il a affirmé que dans les prochains jours, Israël frapperait des milliers de cibles du régime terroriste afin de créer les conditions permettant au brave peuple iranien, je cite, de se libérer des chaînes de la tyrannie. Fin de citation, s'adressant aux différentes composantes de la société iranienne, les Perses, les Kurdes, les Azéris et les Arabes de l'Ouaz et les Baloutches. Il les a tous exhortés à s'unir et à descendre par millions dans les rues pour achever le travail et renverser le régime. L'aide que vous attendiez est arrivée, a déclaré Benjamin Netanyahou, qualifiant le moment actuel d'occasion historique qui ne se présente qu'une seule fois par génération.
Et le président américain Donald Trump a déclaré, c'était dimanche, ce matin donc, avoir une idée précise de la personne qu'il souhaiterait voir prendre la tête de l'Iran après la mort du guide suprême Ali Khamenei, tué, pour mémoire, lors de frappes aériennes menées conjointement par Israël et les États-Unis, Lise.
Néanmoins, Donald Trump a répondu « Je sais exactement qui, mais je ne peux pas vous le dire », relancé sur l'existence d'une personnalité à l'intérieur même de l'Iran qu'il jugerait apte à diriger le pays. Le président américain a indiqué qu'il pensait à quelques bons candidats sans fournir plus de précisions.
Élise, si vous le souhaitez, nous avons notre invité suivant avec nous. Il s'agit d'Ilan Klein du Magen David Adom. Je vous laisse bien sûr avec lui pour lui demander tout ce qu'il y a à savoir sur cette opération conjointe entre les États-Unis et Israël pour renverser le régime iranien.
Alors justement, on parle d'une personne blessée dans la dernière salve de missiles balistiques lancée par l'Iran sur le centre d'Israël, celle qui nous a empêchés de commencer justement cette édition spéciale à l'heure, puisque nous étions tous dans les abris. Et Ilan Klein, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Ilan, qu'en est-il, vous qui êtes directeur adjoint du département international de Magen David Adom, est-ce que vous avez plus d'infos sur le bilan des dernières frappes? On parle d'un blessé, c'est ça?
Alors, pour le moment, les équipes du Magen David Adom continuent à chercher dans le complexe de bâtiments dans la région de Beit Shemesh. Et il y a plusieurs blessés légers pour le moment, mais on n'a pas fini avec cette scène, ça veut dire que ça peut encore évoluer.
D'accord. Et à quel bilan on en est, Ilan, de ce qui s'est passé hier? Parce qu'on a été quand même très choqués par cet impact direct sur Tel Aviv qui a fait beaucoup de dégâts sur un certain nombre de bâtiments, qui a tué deux personnes et qui a blessé pas mal également d'Israéliens.
Oui, alors du point de vue de Tel Aviv, j'étais sur place, le dégât et l'impact étaient très très grands sur plusieurs rues dans la région. Et même, il faut comprendre, quand il s'agit d'un missile iranien, c'est un missile de 500 kilos. 500 kilos, ça fait un trou de 2-3 mètres et l'impact est très très grand. Du point de vue du Magen David Adom, on est arrivé sur place très vite, c'est pas loin de notre station dans du sud de Tel Aviv. On est arrivé sur place, on a commencé à chercher les blessés. Très vite, on a trouvé la personne très grièvement blessée. Malheureusement, elle est décédée plus tard. Et on a évacué 24 personnes en total. Une parmi eux blessée grave, tout le reste léger et moyen.
Alors, je viens de voir qu'on dirait qu'il y a même 4 blessés, Ilan, là. Évidemment, les secours sont mobilisés. Comment ça s'est passé hier quand vous êtes arrivé à Tel Aviv? Dans quel état vous avez trouvé les gens? C'était un grand choc, il me semble.
Oui, alors déjà, les dégâts, on a pu les voir quelques rues avant le missile. Et après, il faut continuer, il faut rentrer dans la scène pour continuer à chercher, parce que nous, on rentre au milieu, au centre de la scène, et de là-bas, on commence à évacuer à l'extérieur. Alors, on est rentré, on a passé plusieurs blessés, plusieurs personnes qui étaient en choc parce qu'ils ont pas compris ce qui se passait, et on est arrivé au centre du centre où le missile est tombé, et là-bas, bien entendu, il y avait le plus de dégâts. Main en main avec les pompiers et avec la police israélienne, on a pu évacuer les personnes. Et on fait tout ça pour notre objectif, c'est le faire le plus vite possible.
Alors effectivement, on avait peur hier, Ilan Klein, et vous allez nous dire si ça a été le cas, qu'il y ait des gens qui soient en fait sous les décombres, parce qu'il y a une grande partie de cet immeuble de Tel Aviv qui a été touché, qui s'est effondré complètement, quoi.
C'est ça, et c'est la raison que l'évacuation au total nous a pris plusieurs heures pour être certain que tous les blessés ont été évacués. Et nous, avec le Pikoud Haoref, l'unité de l'armée qui s'occupe des blessés sur place, on est resté sur place pendant plusieurs heures Et à propos, c'est ce qui se passe maintenant sur Beit Shemesh. On fouille tous les bâtiments, on fouille partout dans les immeubles pour trouver les blessés et pas laisser des blessés sur le terrain.
Alors, Ilan, c'est vrai qu'on a un autre souci dont on parle peut-être pas suffisamment. C'est qu'il y a un tiers des Israéliens qui n'ont pas d'abri. Un tiers des Israéliens, ça fait 3 millions de personnes. Donc, quand on est dans des vagues comme ça et qu'on n'a pas d'abri, ça fait beaucoup de gens qui sont allés dans des parkings, qui sont allés dans des abris publics. Mais ça fait aussi beaucoup de gens qui sont en panique parce qu'ils ne savent pas effectivement où aller.
Oui, alors ceux qui n'ont pas des abris, ceux qui n'ont pas des parkings, alors ce que les instructions sont de rester dans les couloirs, dans les marches et les escaliers. C'est les instructions, bien entendu, c'est pas la meilleure chose à faire, mais s'il n'y a pas d'autre possibilité, il faut rentrer où il y a les escaliers, c'est l'endroit le plus protégé dans le bâtiment. À Tel Aviv, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de miklatim, beaucoup d'abris publics. Et oui, malheureusement, il n'y a pas pour tous les Israéliens des abris.
Alors, on en a vu hier qui dormaient dans le métro, dans les stations de train, dans les parkings. C'est quand même très compliqué si on pense que ça va durer pendant plusieurs semaines, Ilan.
Alors, nous, on se prépare pour plusieurs semaines. Et oui, c'est compliqué. Il faut dire qu'aussi les hôpitaux israéliens, ils sont dans les parkings. Ça veut dire on est tous passés au souterrain. Nous, notre standard national est passé au souterrain. Et c'est quelque chose qu'il faut subir. Mais je crois que dans des moments historiques comme celui-ci, tous les Israéliens ont beaucoup de courage et beaucoup, ils comprennent l'importance de la situation, et je suis sûr qu'on va bien passer ces moments-là.
C'est vrai, alors on a vu justement ces images très impressionnantes, Ilan, des hôpitaux qui sont en mode urgence, qui sont dans les parkings, qui font tout en souterrain. Il y a des dames qui ont accouché cette nuit au milieu des parkings, ce qui est plutôt une bonne chose parce que d'abord on n'arrête pas la vie et puis ça montre, comme vous le disiez, Ilan, la résilience du peuple israélien.
Oui, tout à fait. Et nous, le Magen David Adom, on a pris une grande partie d'évacuation des hôpitaux. Selon l'instruction du ministère de la Santé, on a envoyé les bus de soins intensifs avec des ambulances, avec des secouristes dans des hôpitaux pour les évacuer. Une partie, bien entendu, on a évacué dans les parkings. Une autre partie, on a évacué dans d'autres hôpitaux plus protégés. Mais je crois, comme vous l'avez dit, la résilience du peuple israélien maintenant, c'est quelque chose de très fort, et on comprend la raison qu'on fait, qu'on passe ces moments-là, et on est sûr que ça va bien se passer.
On parle quand même d'une enfant grièvement blessée, hein, Ilan, maintenant à Beit Shemesh.
Oui, ça continue, ça va évoluer selon, je veux pas, avant que ça sorte officiellement, je veux pas dire les données, mais ça va évoluer parce que la situation là-bas est assez compliquée.
Merci beaucoup, Ilan Klein, directeur adjoint du département international du Magen David Adom, d'avoir été avec nous ce matin. Bon courage à vous et on se parle très vite.
Merci beaucoup.
Et on continue bien sûr ce journal Lise avec les autorités de Dubaï qui confirment que des débris provenant de drones interceptés par les défenses aériennes sont tombés dans les cours de deux maisons, faisant ainsi deux blessés.
Et la question qui se pose, c'est les Émirats Arabes Unis sont-ils sur le point de se joindre à la campagne contre l'Iran? Si vous vous en souvenez, hier, il y a également des attaques qui avaient eu lieu contre un hôtel juste au centre de Dubaï à côté du Burj Khalifa. Le ministre d'État des Émirats Arabes Unis a déclaré ce matin Nous sommes prêts à nous défendre. Nous espérons que cela n'ira pas jusque-là, mais nous n'allons pas rester les bras croisés alors que nous continuons à subir un tel déluge d'attaques illégales et injustifiées. Le conseiller du président émirati s'est adressé directement au régime islamique. Reprenez-vous, traitez vos voisins de manière rationnelle et responsable avant que l'isolement et l'escalade ne s'élargissent. Les États du Golfe doivent tenir une réunion d'urgence à la suite des frappes de missiles iraniens qui les ont touchés ces derniers jours.
Et des États du Golfe, on passe à Chypre maintenant, où deux missiles iraniens ont été tirés dans la direction de cette île où se trouvent des bases militaires britanniques. C'est ce qu'a révélé d'ailleurs le ministre britannique de la Défense, John Healey.
Le ministre britannique de la Défense estime que ces projectiles ne visaient peut-être pas directement les installations du Royaume-Uni. Ces déclarations interviennent alors que le Royaume-Uni a déployé des avions au-dessus du Moyen-Orient pour des missions défensives, selon une annonce faite la veille par le Premier ministre Keir Starmer. Les appareils britanniques opérant depuis le Qatar et Chypre sont chargés d'intercepter missiles et drones menaçant leur zone de déploiement. Et il est à préciser que lorsqu'ils détectent des projectiles dirigés vers d'autres pays, ils peuvent également les neutraliser dans le cadre d'une coordination régionale visant à renforcer la stabilité du Moyen-Orient.
Voilà, fin de ce journal. Et en attendant notre invité suivant, Lise, c'est à vous que je vais m'adresser, vous, l'Israélienne. Vous êtes Shomeret Shabbat, comme tous les membres de votre famille. Alors, la question est simple pour commencer cet entretien avec vous, Lise. Comment avez-vous vécu cela? Comment l'avez-vous appris? Puisque on sait très bien que normalement à Shabbat, ben pas de smartphone, pas de téléphone, etc. Donc comment fait Israël pour prévenir les gens qui eux sont Shomrim Shabbatot? C'est comme ça qu'on dit?
Shomrim Shabbat, ça suffira. Mais c'est vrai que Didier, de toute façon, ça a été vite. Hein. Hier matin, 8h, on avait déjà une alerte et on devait déjà aller aux abris. Donc, même si on savait pas exactement où on en était et qu'on savait pas à 8h du matin que Ali Khamenei allait être éliminé, on avait bien compris que c'était la guerre avec l'Iran. Parce que quand vous vous réveillez le samedi matin à 8h00 avec l'alerte pour aller dans les abris, c'est que ça rigole pas. Donc, tout de suite après ça, il se trouve qu'on est quand même allé à la synagogue parce que c'était Shabbat Zahor, comme vous l'a dit Rav Mordechai Chalençon, c'est un cher Shabbat où il faut vraiment aller à la synagogue pour se rappeler du souvenir d'Amalek, nos ennemis, etc. À la synagogue, bah, y a toujours des gens qui, eux, ont leur téléphone. Donc, ils vous racontent ce qui s'est passé, ce qu'ils ont sur les news, etc. À 9h, rebelote, une autre alerte. Donc, entre-temps, vous avez déjà eu pas mal de renseignements. Et après, c'est clair et net. Il se trouve que moi, j'ai pas que des gens qui sont Shomer Shabbat, comme vous l'avez dit, Didier, dans ma famille. Et chez moi, il y en avait qui ne l'étaient pas non plus. Parce que j'ai la chance, c'est vrai maintenant, et c'était pas le cas il y a quelques mois, mais j'ai déménagé, d'avoir un abri dans mon appartement. Avant, j'en avais pas. Je devais descendre à l'abri de mon immeuble, donc courir pendant 5 étages pour descendre les escaliers pour arriver dans l'abri collectif. Maintenant que j'ai un abri dans mon appartement, donc j'ai plusieurs membres de ma famille qui sont venus pour justement, eux n'ont pas d'abri à la maison, donc ils sont chez moi en ce moment et c'est ce que font tous les Israéliens. Donc eux, ils avaient leur téléphone et du coup, on a eu quand même des infos très détaillées, on va dire.
Alors justement, rappelez-nous, Lise, comment ça se passe en réalité? Je sais que vous recevez sur votre téléphone une alerte pour vous disant que bientôt il y aura une alerte. C'est une pré-alerte d'une certaine façon.
C'est ça.
Et à partir du moment où il y a l'alerte, combien de temps avez-vous, et j'imagine que ça dépend de l'endroit du pays où on se trouve, bien ouais, évidemment, mais combien de temps pour donner une idée à nos auditeurs du temps imparti? Bien sûr, quand on est valide, 30 secondes, c'est très long, mais quand on est moins valide, ça peut paraître extrêmement court.
Alors, effectivement, Didier, donc cette nouveauté de cette guerre-là, justement, déjà en juin dernier avec l'Iran, c'était la première fois que ça avait été expérimenté, ça s'appelle la Atra'a, et donc on reçoit cette pré-alerte, et honnêtement, tous les Israéliens la détestent, c'est encore pire. Je préfère encore quand la sonnette, quand l'alarme sonne directement dans toute la ville, au moins vous savez ce qui se passe. Mais la Atra'a, c'est un son absolument atroce, ça vous réveille en sursaut, quoi que vous soyez en train de faire. C'est bon, alors c'est vrai que c'est très bien parce que du coup, vous avez plus ou moins 5 bonnes minutes et parfois 8, on va dire, avant que l'alarme ne sonne véritablement. Donc pendant ces 5 bonnes minutes, vous avez le temps d'aller vous mettre à l'abri. Après, à ce moment-là, vous allez recevoir l'alerte qui dit ça va sonner. Et puis, généralement, là, vous entendez la sonnerie dans la ville où vous êtes. Et moi, je suis dans le centre d'Israël, Tel Aviv et compagnie. On a 1 minute 30 pour se rendre aux abris. Donc, effectivement, comme vous le disiez, quand on est bien portant, 1 minute 30. Et puis, en l'occurrence, moi, c'est dans mon appartement. Donc, pour aller d'un bout à l'autre de l'appartement, 1 minute 30, ça va quand même. Mais c'est vrai que des gens qui doivent descendre des escaliers, aller dans un abri public, porter un bébé, être avec une vieille dame, tout ce que vous voulez, c'est très compliqué. Et encore une fois, comme on le rappelait, il y a quand même 3 millions d'Israéliens qui n'ont pas d'abri. Ça fait un tiers des Israéliens qui n'ont pas d'abri chez eux et qui donc doivent aller s'abriter, entre guillemets, on ne sait pas trop où, sachant que
C'est
depuis ce
bizarre.
matin, il est quand même déjà allé depuis au moins 10 fois. Donc, on ne parle pas d'y aller une fois de temps en temps. Là, on y est allé 10 fois en une journée. Hier, on y est allé, j'ai même plus compté, mais ça dépasse aussi les 10. Donc, vous passez quand même votre journée là-bas.
D'accord.
Et
Et
une fois que
justement,
notre nouvel invité est arrivé, donc on va pouvoir
absolument.
discuter avec lui. Michel Fayad, bonjour. Merci d'être
Bonjour.
avec nous sur Radio Judaïka. Alors, Michel, je voulais qu'on revienne avec vous sur plusieurs choses dont vous êtes spécialiste. La première, c'est le Liban. La grosse inconnue qui inquiète les Israéliens aujourd'hui, c'est de savoir si oui ou non le Hezbollah va se joindre à cette guerre, va attaquer le nord d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez?
La réponse est oui, parce que Naïm Kassem, donc le secrétaire général du Hezbollah, a fait un discours il y a quelques minutes dans lequel il disait qu'il a fait la promesse de respecter l'esprit de jihad et les actions de jihad préconisées par Ali Khamenei. Et donc, comme il l'avait annoncé il y a quelques jours, en cas d'assassinat d'Ali Khamenei, il interviendrait sur le terrain. Donc, dans les prochaines heures, on va probablement, ou au jour, on va probablement voir une entrée en guerre officielle de la part du Hezbollah. Il faut quand même comprendre que le Hezbollah a été créé pour ça, notamment. En fait, le Hezbollah a été créé pour trois choses. La première, défendre la République islamique, et ça, c'est le cas aujourd'hui. Étendre la République islamique en intégrant notamment le Liban, l'Irak et d'autres. Et également pour conquérir ce qu'ils appellent la Palestine.
Alors, pour continuer sur les tensions dans la région, hein, Michel Fayad, on a été un peu étonné de voir à quel point la République islamique d'Iran s'est attaquée rapidement aux alliés d'Israël, y compris le Qatar, qui est quand même censé être le grand argentier du Hamas et tout de même pas un pays du Golfe extrêmement ami d'Israël. On ne peut pas dire ça.
Oui, mais en fait, attaquer le Qatar, c'est envoyer un message, parce que il y a la plus grande base militaire américaine qui s'y trouve, mais c'est également la possibilité pour l'Iran de faire très très mal à tout l'Occident et au monde entier, parce qu'il suffirait de 2 missiles ciblés sur le Qatar pour faire très mal au monde entier. Premièrement, en balançant un missile sur l'unité de désalination de dessalinement de l'eau du Qatar, et l'autre en mettant un missile sur envoyant un missile sur l'unité de liquéfaction du gaz. Je rappelle que le Qatar exporte 77 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié chaque année. Une grande partie va à la Chine, mais il y a également une partie qui va en Inde, en Corée, au Japon et aussi en Grande-Bretagne et au reste de l'Europe. Donc ça aurait un impact terrible, notamment non seulement sur la fourniture, mais aussi sur le prix du gaz. Donc les Iraniens envoient un message en frappant le Qatar.
Alors, les Émirats arabes unis également, le Bahreïn également. Donc là, clairement, on est sur un embrasement de la région, ce qui était ce que tout le monde craignait, en fait, Michel Fayad.
Oui, mais c'est, disons, une des rares armes qu'a le régime iranien. C'est vraiment faire mal avec ses proxys, faire mal avec ses missiles. Donc, c'était quand même attendu. Il faut pas oublier le fait aussi que vous avez 15% de la population saoudienne qui est chiite. Vous avez 70% quasiment de chiites au Bahreïn. Vous avez 25% de chiites au Qatar. Vous avez à peu près 15% de chiites également aux Émirats arabes unis. Et je ne parle pas des proportions au Yémen et en Afghanistan ou au Pakistan. Et puis j'oublie bien sûr, il y a les 2 tiers de la population d'Irak qui est chiite, et également peut-être entre quasiment 30% de la population libanaise au Liban qui est chiite. Donc avec toutes ces toutes ces chiites à peu près partout. Vous voyez qu'il y a une arme que l'Iran peut utiliser, d'autant plus que Ali Sistani, qui est la figure chiite la plus importante au monde et qui était un rival d'Ali Khamenei jusque-là, avait lui aussi dit qu'en cas d'assassinat d'Ali Khamenei, il appellerait un djihad des musulmans, non pas des chiites, mais des musulmans, dans le monde entier, contre les juifs et contre les occidentaux. Et c'est bien important de le dire que ce n'est pas seulement contre Israël, c'est contre les Juifs, et c'est pas seulement contre les Américains, c'est contre les Occidentaux. Son message avait été clair, il l'avait donné à l'ambassade des États-Unis en Irak.
Alors justement, Michel Fayad, pour revenir sur l'Irak, on est sur une situation qui là aussi est explosive. Il y a des milliers de partisans des milices pro-iraniennes qui sont à Bagdad, dans le quartier où il y a la zone qu'on appelle la zone verte, où il y a l'ambassade américaine, et dans la capitale iranienne irakienne, pardon, il y a une vraie explosion de violence, et on sait à quel point l'influence iranienne est vraiment profonde dans cette capitale de l'Irak. Est-ce que ces milices irakiennes qui sont chiites, elles ont les moyens en fait de leurs ambitions, Michel Fayad? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire comme vengeance entre guillemets?
Donc les milices irakiennes pro-iraniennes, on les appelle les Hashd al-Shaabi, et ces milices, et elles contiennent, en fait, elles comprennent plusieurs organisations, dont celle qui est assez connue comme étant Kataeb Hezbollah. Donc en fait, ces forces, ce sont celles qui se sont attaquées autrefois en 2019 au consulat américain au sud du pays, ce qui avait poussé Donald Trump en janvier 2020 à liquider Qassem Soleimani, le chef de la force Al-Quds de la République islamique d'Iran, des gardiens de la Révolution. Aujourd'hui, on a appris il y a quelques heures que donc les Hashd al-Shaabi ont attaqué Erbil, qui est la capitale du Kurdistan irakien. C'est un message qui est envoyé également aux Américains parce que en frappant à Erbil, eh bien, ils frappent un endroit où il y a une présence militaire américaine. C'est également un message qui est envoyé aux Kurdes en général en Iran même, pour leur dire que vous voyez, on peut même frapper les Kurdes en Irak, vos frères. Donc n'essayez pas de faire quelque chose en Iran même, parce qu'il faut quand même savoir que la frontière entre le Kurdistan iranien et le Kurdistan irakien, entre iranien et irakien, disons, ce Kurdistan est assez simple pour traverser les frontières. Et donc il y a du trafic d'armes, du trafic d'hommes. Enfin, il y a des hommes qui viennent qui traversent les frontières pour aller se battre. Et donc le Kurdistan iranien peut constituer un danger pour la République islamique. Et là, c'était aussi un message donc envoyé aux Kurdes en général, donc pas seulement ceux d'Irak, mais également ceux d'Iran, s'ils étaient tentés par l'aventure, qui seraient réprimés à la fois en Iran et en Irak. Les Hashd al-Shaabi sont également le seul proxy iranien qui n'a pas été frappé réellement depuis le 7 octobre, mais les choses ont changé depuis hier, puisqu'Israël a dit avoir frappé pour la première fois les Hashd al-Shaabi en Irak. C'était probablement une frappe préventive, justement, pour envoyer un message aux Hashd al-Shaabi que leur participation serait interdite. Mais le fait est que, comme le Hezbollah au Liban, les Hashd al-Shaabi font partie de ce qu'on appelle le Vilayat-e Fakir, c'est-à-dire ce califat politique, religieux, militaire, dirigé par le guide suprême de la révolution islamique d'Iran, qui est appelé le Wali al-Fakir, et qui est le chef direct de ce Wilayat al-Fakir. Et donc,
Oui, Michel, ça veut dire en fait que cette mort de Khamenei, elle atteint beaucoup plus de gens en fait. Il y a des millions de fidèles qui considéraient que le guide suprême était pour eux une autorité religieuse et politique. Et c'est ça en
absolument.
fait le problème de cette mort d'Ali Khamenei. Je voudrais qu'on parle, Michel, aussi du Pakistan, parce qu'on se demande ce que ça vient faire là, mais en fait, c'est lié. Et en ce moment même, la situation aussi est explosive dans le sud du Pakistan. Il y a des manifestants qui sont autour de l'enceinte du consulat américain qui essayent de faire des incendies et
Il y a eu des morts.
des violences. Il y a eu des morts, exactement, au moins 9 pour l'instant, de ce que j'ai vu. Et j'avais lu une analyse que je trouvais très intéressante et sur laquelle je voulais votre avis. Est-ce que, à votre avis, Israël a volontairement fomenter, entre guillemets, avec l'Inde, un complot pour que l'Afghanistan attaque le Pakistan en fin de semaine dernière, juste après la visite de Narendra Modi en Israël, si on peut dire, pour que justement le Pakistan soit occupé sur cette frontière-là de l'Afghanistan et n'ait pas tellement de possibilités de venir aider les Iraniens en ce moment même.
Oui, c'est une théorie. On peut pas vraiment savoir parce que vous savez, les Afghans et les Pakistanais se livrent une guerre depuis très longtemps, une guerre froide par moment, une guerre directe par d'autres moments. Vous savez qu'au Pakistan, il y a les talibans également. Il n'y a pas qu'en Afghanistan et que justement, ils essayent de conquérir le pouvoir. C'est un danger extrêmement important pour la région et pour le monde entier, puisque le Pakistan dispose de l'arme nucléaire, contrairement à l'Iran. L'Iran essaye de se la procurer, mais le Pakistan en dispose, et donc constitue un véritable danger, surtout s'il tombe entre les mains des talibans. Je rappelle que aujourd'hui déjà, le Pakistan est une république islamique, son nom officiel comme l'Iran, c'est République islamique du Pakistan, et s'il venait à tomber entre les mains des talibans, il serait un danger encore plus grand et encore plus imminent pour toute la région et le monde entier. Je rappelle que aussi que les talibans ont accueilli Oussama Ben Laden, vous savez, jusqu'en 2002, 2003, et même après, puis, enfin, il était entre le Pakistan et l'Afghanistan, mais il vivait autrefois donc en Afghanistan, et donc les talibans avaient le protégé, et c'est pour cela que George Bush Junior les avait attaqués donc dès fin 2001 pour se venger du 11 septembre 2001. Donc les talibans aujourd'hui ont repris du poil de la bête parce qu'en 2021, lorsqu'ils ont fait leur retour à la tête du pays, ils promettaient d'être différents, d'être plus modérés, notamment avec les femmes. Et puis récemment, vous savez, ils ont instauré l'esclavage à nouveau et les femmes n'ont plus le droit à rien, même plus de se parler entre elles. C'est-à-dire qu'autrefois, on voulait interdire les femmes de parler aux hommes, mais maintenant on considère qu'il faudrait pas que les femmes parlent entre elles parce qu'elles parleraient contre les intérêts des hommes.
Et en plus, maintenant, on a le droit de frapper sa femme tant qu'on n'a pas un os cassé. Ça, c'est la dernière loi que les
C'est
talibans ont
ça.
passée. Donc, on peut vous frapper, on peut vous battre s'il n'y a pas d'os cassé. Et s'il y a un os cassé, on peut se plaindre, mais c'est tout. Voilà, ça se tiendrait à ça. Donc, franchement, dans nos sociétés, on est horrifiés. Michel Fayad, ma dernière question pour vous. Est-ce que vous êtes optimiste sur cette guerre avec l'Iran? Est-ce que vous pensez que ça va bien finir?
J'espère, en tout cas, il faut que ça finisse bien et il faut être optimiste, mais il faut que ça aille vite. C'est-à-dire, il faut que les liquidations qui ont commencé depuis hier se poursuivent le plus rapidement possible. Voilà.
Ben, elles ont bien démarré, hein. 40 d'un coup, le premier jour a commencé par le guide suprême, c'est déjà pas
C'est ça.
mal.
Mais il faut garder le
Mais
rythme.
voilà, il faut garder le rythme. Mais c'est vrai que c'est pas bien de vouloir la mort des gens, mais
Non,
bon, à ce
mais
stade,
pour
ça
finir de ce
aurait été
régime, voilà.
bon. Voilà, on va pas non plus pleurer. Merci beaucoup,
Merci à
Michel
vous.
Payette, d'avoir été avec nous. Bon courage, bonne
Merci
journée, à très
aussi.
bientôt.
Au
Bonsoir.
revoir.
Merci Michel Fayad d'avoir accepté notre invitation en ce dimanche et nous allons accueillir l'invité suivant, Lise, qui va nous rejoindre dans le Zoom. Il s'agit d'Abraham Levin, qui ne devrait pas tarder à apparaître sur vos écrans. Vous qui nous suivez sur notre Facebook Live, le voici, le voilà. Lise, je vous laisse avec Abraham Levin.
Avraham Levin, bonjour. Hello, thank you so much for being with us today.
My pleasure.
Avraham, how much time did you went to the Mamad Miklat or under in the last few days?
Well, if only we are listening, then most of the time I stayed in my room.
Alors, j'ai juste entendu les alertes, je lui ai demandé combien de temps il était allé. Il a dit carrément, il reste dedans, c'est encore plus simple. Avraham, you are in the north of Israel. Everyone is afraid of the Hezbollah joining Iran in that combat against Israel. What do you think?
Well, first of all, I want to say when we get alerts here, it's many times attacks from the north, but it's not Hezbollah. It's Iranian UAVs that their route comes over Lebanon towards the north and then towards central Israel. So we get alerts anyway, even when Iran is attacking. And that's what's been happening since yesterday morning. I don't think I'm concerned with a direct Hezbollah attack. I am concerned if they join the war and start shooting missiles from the north too, and then I think we'll be in a completely different situation.
Alors, Avraham Levin, qui fait partie du centre de recherche ALMA, qui est situé en Galilée, je vous le rappelle, explique que les alertes qui ont eu lieu ces derniers jours viennent effectivement du nord, mais pas du Hezbollah, qu'il s'agit de drones iraniens qui attaquent le nord et que c'est ça et qui déclenche les alertes. Maintenant, il a dit qu'effectivement, il s'inquiète, non pas que le Hezbollah les attaque directement, mais que le Hezbollah joigne l'Iran dans son combat et donc se mette à envoyer des missiles sur le nord d'Israël. You know perfectly and by heart, Avram, many times how much missiles people have. What would you say about Hezbollah having missiles ready to launch to Israel? Is it thousands? Is it hundreds? What do you say about that? Qu'est-ce que vous diriez que le Hezbollah a sous la main comme missile des centaines, des milliers, des centaines de milliers pour lancer contre Israël?
I think the question is how many missiles can they shoot towards Israel? And the answer is definitely in the hundreds. I think we see two scenarios. One is that Hezbollah get an order from Iran to join, and then we will see a concerted effort from all of Hezbollah. Everything that's left after our maneuver and our attacks will be sent towards the north. That's the worst case scenario. I think even more possibly will be just some of Hezbollah or part of Hezbollah joining the war on their own effort, and then we'll see missiles and rockets from separate places, even though it's not necessarily a direct order from Iran.
Alors, la question, c'est, ça se pose effectivement en centaines, mais surtout, c'est de savoir combien peuvent faire de gros dégâts en Israël. Et dans ce cas-là, il y a deux scénarios. Le premier, qui est le pire, c'est si le Hezbollah reçoit l'ordre de l'Iran de rejoindre les combats. Et à ce moment-là, ils vont envoyer tout d'un coup tout ce qu'ils ont contre le nord d'Israël. Et ça, effectivement, ça peut risquer d'être très compliqué. Le second scénario, qui est peut-être un peu plus probable, c'est que seulement une partie des membres du Hezbollah, ou alors des forces alliées au Hezbollah, une partie seulement pourrait joindre le combat. Et dans ce cas-là, ils vont envoyer des missiles de manière sporadique. Avram, when we talk about Hezbollah, everyone was afraid that it's going to be the main contributor to Iran in that new war. And we don't talk so much about the Houthis, but they are still there. And they are also the Iraqi militia. And we've talked with the previous guest about what's happening in the Gulf country, in Pakistan and everything. Do you fear that with the help of the American and the English people, and that practically everybody want has a word to say on that, that when we talk about a third world war, is it accurate to say so? Quand on voit tous ces gens qui sont impliqués dans cette guerre régionale, est-ce qu'on peut parler de Troisième Guerre mondiale ou pas du tout?
It seems like, despite our concern of this spreading and causing a much bigger, bigger clash, right now that's not happening. We are not seeing more players moving in. The proxies of Iran are slower to respond and react. And right now, it seems like Iran are on their own. And I hope that's a good sign for us, seeing Iran break through. Maybe there's something. Maybe there's a good surprise at the end of this month.
Alors, pour l'instant, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on craignait de voir vraiment les clashs augmenter et avoir de plus en plus de gens qui se joignent à cette bataille, mais ce n'est pas ce qu'on voit pour l'instant. Même les proxys de l'Iran sont finalement assez peu rapides à répondre et l'Iran se retrouve seul, ce qui est plutôt peut-être un bon signe et on espère en tout cas une bonne surprise d'ici la fin du mois. Avram, you with Alma were in the people who really alert Israel on everything or almost everything what happened. Do you think that Israel is really well prepared to that war? Est-ce que vous pensez, après toutes les analyses que vous aviez faites pour préparer justement cette situation, qu'Israël était bien préparé à cette nouvelle guerre avec l'Iran?
I think Israel has taken the time to prepare and has done a good job. On the other hand, direct attacks from Iran will succeed and are succeeding. As we're speaking, a direct hit in Beit Shemesh, not very earlier today, and we see people there hurt, and that can happen again and again before the war is over. So I hope this is over soon.
Alors oui, Israël a pris le temps qu'il fallait pour se préparer et a pour l'instant bien réussi dans ses frappes, mais il faut se rappeler que les attaques directes de l'Iran continuent, qu'elles ont lieu en ce moment même où on se parle, qu'à Beit Shemesh, il y a des morts et ça va continuer encore avec malheureusement d'autres blessés et d'autres morts dans des attaques iraniennes. Avraham, one last word about this war. Everyone is asking how long, how much time. I know you're not seeing in a crystal ball, but what would you say? Long, not long, half long? Qu'est-ce que vous diriez sur combien de temps ça va durer? Je sais bien que vous n'êtes pas Madame Irma, mais c'est une question que tout le monde se pose. Est-ce que ça va être long, pas long, à moitié long? Quel est votre avis là-dessus?
Iran is a master of long wars and attrition. U.S. would prefer a very short, quick flash of an attack when it's somewhere in the middle. I hope it will be shorter than longer, because being home with the kids is a little more challenging than you'd expect when you have to go into shelter all day and all night. But Israel can hold on, and it's worth it.
Alors, l'Iran est un gros morceau, il faut le reconnaître. Et puis, les États-Unis aimeraient que ça soit beaucoup plus court, donc ça sera sans doute entre les deux. Et étant donné qu'être à la maison avec les enfants au milieu des alertes, aussi bien le jour que la nuit, est tout de même assez difficile pour tous les Israéliens, moi y compris, eh ben plus court ça sera et mieux on se portera. Merci beaucoup Avraham Levin d'avoir été avec nous ce matin du Centre de recherche Alma en Galilée, spécialiste donc de défense et aussi officier de réserve dans l'armée israélienne. Bonne journée à vous, à très vite.
Thank you.
Merci de votre présence ce dimanche. Have a good day and Am Israel Chai, hein, comme on dit depuis maintenant. J'ai presque envie de dire trop longtemps puisque c'est toujours dans de mauvaises circonstances. Lise, avant de terminer cette spéciale attaque conjointe d'Israël et des États-Unis contre l'Iran, j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, qu'on continue notre petit entretien qu'on avait commencé avant que Michel Fayad nous rejoigne. Vous nous avez dit que vous aviez 1 minute 30 pour rejoindre les abris, que vous aviez facile parce que c'était chez vous à la maison, mais que d'abord tout le monde n'avait pas un abri chez lui à la maison, mais qu'ensuite, et vous l'avez évoqué, je ne sais plus, je pense avec Ilan Klein, si ma mémoire est bonne, qu'il y avait 30% de la population israélienne qui n'avait pas d'abri à disposition. Et donc, comment ça se passe? J'imagine, connaissant le peuple juif, mais qu'il y a une véritable solidarité et que quand les gens courent vers les abris, eh bien, les plus valides s'occupent des moins valides, et même s'ils ne se connaissent pas, c'est vraiment une solidarité qui doit probablement s'exercer à ce moment-là.
La solidarité, bien sûr, elle existe tout de suite en Israël. On a l'habitude dans toutes les guerres. C'est pas nouveau et ça va continuer. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà en train d'accueillir des soldats ou des gens qui n'ont pas pu rentrer chez eux, qui ne peuvent pas rejoindre parce que, mettons, s'ils étaient passés Shabbat dans une ville et en fait, maintenant, ils sont coincés, ils ne peuvent pas aller dans une autre ville. Alors, il y a quand même des bus, il y a quand même des transports, mais bon, c'est vrai qu'entre les alertes, tout le monde n'a pas forcément ni la possibilité, ni le courage, ni l'envie, en fait, de faire des trajets comme ça. Donc, la solidarité, on va la voir de toute façon dans tous les États. Et puis après, bon, n'oubliez pas que souvent, les abris, c'est des abris collectifs. Ils sont en bas des immeubles, ils sont dans la rue. Donc, Justine, justement, qui est une influenceuse qui n'est pas juive, qui habite en Israël, que vous connaissez, qu'on a reçue plusieurs fois sur cette antenne, elle a fait un petit... un petit réel ce matin que je trouvais très drôle où elle montrait, parce que je pense que c'est une des premières fois où elle est vraiment à ce point-là dans les abris. Donc, elle a montré la collection de pantoufles des Israéliens. Elle a montré ceux qui viennent avec les gâteaux pour partager avec tout le monde. Elle a montré ceux qui font des séances de gym au milieu de l'abri. Elle a montré les chiens qui sont là, parce que on se retrouve aussi avec les enfants et les chiens, mine de rien, dans l'abri. Donc, elle a montré pas mal de scènes un peu cocasses comme ça, et toujours les Israéliens s'en tirent par la solidarité et par l'humour. Donc, voilà, c'est toujours sympathique à voir. Et puis, c'est le seul moyen, en fait, parce que si on se met à vraiment prendre entre guillemets, bien sûr que on prend ça très au sérieux parce que c'est une guerre et qu'on l'a vu, il y a des morts, il va y en avoir encore, on se fait pas d'illusions non plus, mais dans la vie quotidienne, en tout cas, on est obligé d'essayer de garder un petit peu le drame à distance quand on est israélien, alors sinon c'est pas la peine d'habiter ici.
Ça, j'imagine bien. Et dans ce que j'entends, je sais pas si c'est le cas, je l'espère ardemment dans les autres conflits, mais c'est vrai qu'emmener les animaux domestiques dans les abris, je suis pas certain que tous les peuples le fassent dans toutes les guerres. Ça, c'était une petite parenthèse. Et pour terminer, Lise, est-ce que les magasins de première nécessité, je veux dire d'alimentation, bien sûr, mais aussi d'hygiène, de couches pour bébés notamment, puisque vous les évoquez, ont été pris d'assaut ou bien les gens vivent au jour le jour?
Alors, je sais pas, je ne peux pas faire un truc vraiment, on va
Bien
dire,
sûr.
scientifique là-dessus, mais je sais que hier, Volt, ce n'était pas possible, donc on ne pouvait pas faire de livraison. Mais par contre, aujourd'hui, c'était de retour, donc il y a des gens à qui il manquait des choses. Et je peux vous dire que chez moi, on n'avait plus de sopalin, on n'avait plus de café et on n'avait pas assez de lait pour un bébé, pour tout vous dire. Donc du coup, oui, pareil, on est quand même descendu aller faire quelques courses, des choses qui étaient vraiment importantes et qui nous manquaient. Et les macolettes sont ouvertes, donc ces petits supermarchés de quartier, les grands supermarchés sont ouverts, le superfarm, c'est-à-dire les pharmacies sont ouvertes pour les médicaments. Par contre, j'avais un rendez-vous médical ce matin, il a été annulé. Donc ça, vous ne pouvez pas voir le médecin. Donc il vaut mieux pas être très malade non plus, parce que ce n'est pas la pharmacie quand même qui va vous sauver d'un truc grave. Et sinon, bah oui, à ce moment-là, il vous reste à aller à l'hôpital. Mais je ne suis pas sûre qu'avec les blessés qui arrivent et les choses très, très difficiles qui se passent aujourd'hui dans les hôpitaux israéliens, on vous traite si vous n'avez pas quelque chose de franchement sérieux.
Oui. Bien, ben écoutez, Lise, bon courage à vous, bien évidemment, à votre mari, à vos enfants et vos petits-enfants. Et puis surtout, bon courage à, je sais qu'ils sont très nombreux, aux auditeurs francophones qui vivent en Israël et qui nous écoutent. Et je sais que ici en Belgique et en France, la plupart des auditeurs qui nous écoutent et qui nous suivent, eh ben, ils ont par définition beaucoup de familles en Israël, même s'ils ont, j'imagine, des liens directs avec ceux-ci. Eh bien, ça fait aussi du bien d'avoir des infos grâce à Radio Judaïka. Il est 13h57, Lise. Je le disais, on va terminer cette édition spéciale en proposant à nos auditeurs, bien sûr, de nouveau, avant qu'on ne se sépare, le journal.
Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be.
Vous écoutez Radio Judaïka, voici votre bulletin d'information.
L'armée israélienne et les États-Unis seraient proches de la suprématie aérienne sur l'Iran après avoir largué 1200 bombes, éliminé Ali Khamenei et 40 commandants clés des forces iraniennes.
Benjamin Netanyahou s'adresse aux Iraniens en persan et appelle à renverser les régimes. Et enfin, deux missiles iraniens ont été tirés en direction de Chypre, où se trouvent des bases militaires britanniques. C'est ce qu'a révélé également le ministre britannique de la Défense, John Healey. Et puis, une dernière dépêche à Beth Shemesh. Le bilan s'alourdit. On parle désormais, malheureusement, de 6 morts. L'armée israélienne et les États-Unis seraient proches de la suprématie complète, suprématie aérienne sur l'Iran, après avoir largué quelques 1200 bombes, Lise.
Oui, et une fois cette suprématie aérienne établie, cela renforcera la capacité américano-israélienne de cibler un plus large éventail d'objectifs et d'aider les manifestants anti-régime. En juin 2025, il avait fallu plusieurs jours à l'armée de l'air pour atteindre cela. Mais aujourd'hui, ça a l'air d'être plus rapide. Aujourd'hui, dès 10h15 ce matin, l'armée de l'air israélienne a lancé sa première vague d'attaques majeures visant spécifiquement les cibles du régime iranien à Téhéran, notamment le centre des Bastides. Vous le savez, c'est cette police qui a attaqué et tué plus de 40 000 manifestants lors des rassemblements du 8 et 9 janvier dans le centre de Téhéran. Le centre des Bastides vient d'être pris et détruit par les Israéliens.
Et bien entendu, la riposte de l'Iran ne s'est pas fait attendre. Et au cours des dernières 24 heures, ce pays, l'Iran, donc, a tiré plusieurs centaines de missiles en direction de différents pays, dont bien sûr des dizaines visaient le territoire israélien.
Oui, alors l'armée israélienne enquête désormais sur l'échec de l'interception du dernier missile balistique iranien qui a frappé Beit Shemesh. On parle maintenant de 6 morts et de 20 blessés. Tzahal précise que le système d'alerte précoce du commandement du front intérieur a fonctionné comme prévu et a été activé. Le chef du commandement du front intérieur doit se rendre sur les lieux. L'armée poursuit l'examen des circonstances qui ont conduit à cet impact direct d'un projectile. Hier également, vous le savez, un projectile a touché Tel Aviv. 40 bâtiments ont été endommagés par les frappes iraniennes, dont l'un déclaré inhabitable. 29 ont subi des dégâts matériels et 10 ont été légèrement touchés. Plus de 200 habitants de Tel Aviv ont dû être évacués en urgence et sont hébergés actuellement dans 3 hôtels de la ville.
Et dans ce contexte, les conclusions de l'enquête préliminaire du commandement du front intérieur sont sans ambiguïté. La femme tuée cette nuit n'a pas été victime d'un fragment d'interception, mais bien d'un impact direct d'un missile iranien.
Un projectile qui contenait des centaines de kilogrammes d'explosifs qui s'est écrasé dans la rue à Tel Aviv, laissant un cratère et d'importants dégâts qui attestent de la violence de la frappe. La victime est une aide-soignante originaire des Philippines d'une quarantaine d'années qui s'occupait d'une patiente au moment de l'impact. 20 résidents ont été blessés. Une autre habitante de Tel Aviv, Marina Blev, âgée de 68 ans, est décédée d'une insuffisance respiratoire qui s'est déclenchée alors qu'elle se rendait dans un abri antimissile. Face à ces dégâts matériels, l'exécutif a apporté des mesures d'urgence. Un nouveau plan vient d'être donné par le gouvernement. Il s'articule autour de 2 axes principaux, une aide directe aux collectivités et un soutien financier personnel aux sinistrés. Le ministère de l'Intérieur va débloquer un budget spécifique pour les autorités locales. 1500 shekels seront versés par résident qui habite un bâtiment endommagé. Cette somme doit permettre aux municipalités d'agir sans délai pour déblayer des décombres, réparer les structures et sécuriser les sites touchés par des résidus de débris. En complément, chaque habitant dont le logement a été officiellement reconnu comme endommagé recevra une subvention de 500 shekels. Ça fait pas énormément quand même, ça fait un peu plus de 100 euros. Cette aide vise juste à couvrir les frais immédiats. Le gouvernement a précisé qu'il s'agissait une première étape d'un dispositif d'aide plus vaste visant à stabiliser la situation des civils et favoriser un retour rapide à la normale. Les autorités n'excluent pas d'élargir ce plan si l'ampleur des dommages venait à s'accroître.
Et l'Iran tente d'entraîner le débordement des forces anti-aériennes d'Israël.
Oui, l'Iran a élargi son champ de tir visant des cibles en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, à Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis, avec des victimes recensées dans plusieurs pays du Golfe. Il s'agit d'une doctrine militaire précise que les analystes appellent la saturation des systèmes. Téhéran a visiblement renoncé à la stratégie des frappes chirurgicales et veut maintenant inonder les systèmes de défense adverses jusqu'à les paralyser. Sur le plan logistique, l'Iran a également tiré les leçons des frappes israéliennes de juin dernier sur ses infrastructures. Selon des sources arabophones, les gardiens de la Révolution utilisent massivement des lanceurs mobiles et des réseaux souterrains creusés dans la roche. Ce dispositif vise à compliquer le travail de renseignement des forces aériennes israélo-américaines.
Ali Khamenei, le guide suprême iranien et 40 commandants clés des forces armées iraniennes ont été éliminés dans la première frappe préventive d'Israël. C'était hier matin. Parmi eux figuraient 7 hauts responsables sécuritaires, dont le chef d'état-major iranien Abdelrahim Mousavi.
Ils ont tous été éliminés dès la frappe préventive initiale qualifiée d'historique par l'armée israélienne. Une attaque a été rendue possible grâce à ces informations précieuses du renseignement militaire. Au-delà des pertes humaines infligées au commandement iranien, Tsahal a précisé que des dizaines de systèmes de défense aérienne avaient été détruits dans l'ouest et le centre de l'Iran. L'élimination de la plupart des hauts commandants est un coup historique porté à l'appareil sécuritaire iranien, a souligné le porte-parole de Tsahal. L'ayatollah Arafi vient d'être nommé guide suprême par intérim de l'Iran.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est adressé au peuple iranien en persan et les appelle à renverser le régime.
Oui, dans un message qu'il a accompagné d'un enregistrement audio, Benjamin Netanyahou a déclaré au peuple iranien que l'aide qui avait été promise était arrivée. Il les a exhortés à s'unir et à descendre par millions dans les rues pour achever le travail et renverser le régime. C'est une occasion historique qui ne se présente qu'une fois par génération, a dit Benjamin Netanyahou.
Et quant à lui, le président américain Donald Trump a déclaré ce matin avoir une idée précise de la personne qu'il souhaiterait voir prendre la tête de l'Iran après la mort du guide suprême Ali Khamenei, tué lors des frappes aériennes menées hier.
Oui, mais Donald Trump ne veut pas partager cela. Il a dit qu'il le savait, mais qu'il ne pourrait pas le dire. J'ai plusieurs quelques bons candidats sans fournir davantage de précisions, a indiqué le président américain.
Les autorités de Dubaï confirment que des débris provenant de drones interceptés par les défenses aériennes sont tombés dans les cours de deux maisons, faisant deux blessés.
Et la question qui reste en suspens, c'est les Émirats arabes unis sont-ils sur le point de se joindre à cette campagne contre l'Iran ? Les États du Golfe doivent tenir une réunion d'urgence aujourd'hui à la suite des frappes de missiles iraniens sur notamment le Qatar et les Émirats arabes unis.
Et justement, deux missiles iraniens ont été tirés en direction de Chypre où se trouvent des bases militaires britanniques. C'est ce qu'a révélé le ministre britannique de la Défense, John Healey.
S'il estime que ces projectiles ne visaient probablement pas directement les installations britanniques, il y voit la preuve du caractère indiscriminé de la riposte iranienne dans la région. Les appareils britanniques opérant depuis le Qatar et Chypre sont chargés d'intercepter des missiles et des drones menaçant leur zone de déploiement. En tout cas, et il est à préciser que lorsqu'ils détectent des projectiles dirigés vers d'autres pays, ils peuvent également les neutraliser dans le cadre de la coordination régionale qui vise à renforcer la stabilité de la région. De son côté, le secrétaire général du Conseil de l'Europe a appelé l'Europe dans son ensemble à agir pour désamorcer le conflit au Moyen-Orient. Dans un communiqué, il a exhorté les États européens à œuvrer à la désescalade.
Et pour terminer ce journal, Lise, la mort du guide suprême Ali Khamenei a déclenché une vague de colère dans le monde musulman, au Pakistan et en Irak notamment, les deux pays comptant les plus importantes communautés chiites après l'Iran. Les manifestations ont d'ailleurs rapidement dégénéré en affrontements sanglants.
La situation la plus explosive s'est produite à Karachi, dans le sud du Pakistan. Des manifestants ont réussi à franchir l'enceinte du consulat américain, a incendié un véhicule devant l'entrée principale. Le bilan s'élève à au moins 9 morts. À Lahore, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le consulat américain à Islamabad. Toutes les routes qui mènent aux missions diplomatiques et au Parlement ont été bouclées. La capitale est en état d'alerte maximale. Et en Irak, des milliers de partisans des milices pro-iraniennes se sont massés devant la zone verte de Bagdad, l'enceinte fortifiée qui abrite notamment l'ambassade américaine. La tension reste vive dans la capitale irakienne où l'influence iranienne est historiquement très profonde.